Au lendemain des émeutes et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Gratouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir, bonsoir, vous êtes sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, il est l'heure d'un petit Canu Info en ce jeudi. Toujours derrière ce micro vert, nous avons Laurent.
Bonsoir à toutes et à tous.
Et donc moi-même Delphine au micro malheureusement UMP couleur bleue que j'ai ce soir. On va vous faire un petit tour de l'actualité, on fera un petit tour par Israël-Palestine, on passera par la Chine, on parlera du Dalai Lama, on parlera de drogue, on parlera de la Turquie et de la censure d'internet, on parlera de conspiration, on parlera de l'homophobie d'État, on aura une petite rubrique, une belle rubrique, ni Dieu ni maître, on parlera de la BNF, du patron d'Air France, et puis un petit peu de nucléaire. Mais je vous propose de commencer tout de suite avec quelques brèves d'un monde de merde.
Voilà, juste les quelques brèves que nous détaillerons pas, que les États-Unis d'Amérique vont entrer dans une nouvelle croisade contre l'État islamique, le nouvel ennemi qui arrange à peu près tout le monde, en promettant de bombarder la Syrie et de continuer de bombarder l'Irak, ce qui fait réagir bien évidemment. La Turquie confirme qu'elle ne participera pas à ces opérations armées contre l'État islamique. Londres a exclu de participer en début de journée et a changé d'avis et a décidé de soutenir son ami américain pour bombarder la Syrie et plus ses affinités. On a appris aussi aujourd'hui que les 45 casques bleus fidjiens enlevés le 28 août sur le plateau du Golan par un groupe armé proche d'Al-Qaïda ont été libérés sains et saufs. Nous avons appris aussi aujourd'hui que suite aux réactions et aux sanctions européennes, la Russie prépare et a préparé de nouvelles mesures de rétorsion contre l'Union européenne. Mais dans le même temps, on apprend que l'Union européenne n'a toujours pas prévu de sanctions contre Israël après le bombardement de la bande de Gaza. On apprend aussi que l'Union européenne n'a toujours pas prévu de sanctions contre la Chine qui occupe toujours le Tibet. Bizarrement, deux poids, deux mesures par rapport à la Russie. On a redécouvert que U2 était un groupe de merde qui a vendu ce qui lui restait de crédibilité à la multinationale Apple, quintessence de l'ignominie du monde numérique moderne.
Et aussi de la fiscalité, je me permets de le préciser, entre autres, hein. Bien d'autres choses et de symboles.
Et pour finir dans les news brèves, on a appris que le Liban va ouvrir ses deux premiers camps de réfugiés syriens près de sa frontière pour accueillir les réfugiés. Pour l'instant, c'est essentiellement la Jordanie qui les accueillait. Voilà quelques brèves du jour que nous développerons développerons pas. Par contre, nous allons développer un petit peu Israël-Palestine avec quelques petites infos, en tout cas proches de la situation israélo-palestinienne, puisque nous avons appris que Israël concourait, faisait partie des pays qui concourent pour l'organisation de la Coupe européenne de foot en 2020. Alors c'est compliqué parce que la Coupe européenne aura lieu dans plusieurs villes de plusieurs pays et que Israël concourt à la Coupe européenne. Vous savez que Israël n'est pas dans l'Union européenne, mais a tous les droits, a tous les avantages d'être dans l'Union européenne, ne paye pas de droits de douane, enfin des choses comme ça. Et elle participe aussi aux coupes européennes de sport, bizarrement. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que Michel Platini, le responsable, a accueilli la proposition comme si elle venait de n'importe quel autre pays, alors que Israël, cet été, a quand même assassiné plus de 2100 personnes, notamment des femmes, des enfants, et en blessé, je sais pas, un peu plus de 10 000 dans la bande de Gaza. Bon, a priori, pas de soucis. Et pourtant, le foot est concerné par la situation israélo-palestinienne, puisque il y a déjà eu des footballeurs palestiniens assassinés. On rappellera Oudeh Kadber, par exemple. Et puis, il y en a deux autres, Mohamed Mirm et Omar Abou Rouis, qui est lui gardien de but de l'équipe nationale palestinienne. Il est en tôle. Il est dans cette fameuse détention administrative, hein, c'est-à-dire sans accusation, sans charge, sans procès, sans justice, sans démocratie, sans respect, sans droit de l'homme, sans rien, pour une durée illimitée, en tout cas pour une durée qui est inconnu, et personne n'est en nouvelle de lui et de son camarade. Ils sont pourtant footballeurs, ils sont dans les geôles israéliennes. Voilà, c'est toujours triste, et Michel Platini a l'air de ne pas le savoir. Donc voilà pour cette questionnement autour de la proposition d'Israël d'héberger une partie des épreuves de la Coupe européenne de football en 2020. Toujours sur les situations israélo-palestiniennes, quelque chose qui est en, un peu entre, en contrepoids de la propagande qu'on a sur certains médias français sur et on a eu ça en début de semaine il me semble sur une radio publique d'État, comme quoi il y aurait toujours plus de juifs français qui partiraient faire leur ayala, vous savez, ce retour, alors qui est pas un retour en fait, hein, c'est un mensonge, mais ce départ en Israël, puisqu'ils sont nés en France, pour quand ça concerne des Français bien évidemment, et ben il y a aussi depuis peu, le questionnement d'une partie des juifs israéliens sur l'idée de partir d'Israël. C'est assez nouveau, parce que autrefois, quand ça arrivait, hein, que il y ait après l'Ayala, une partie des immigrés juifs décidaient que, bah, que ça leur convenait pas. Ils ont émigré dans un pays qu'on avait, que les gens avaient idéalisé, et puis sur place, ils s'adaptaient pas. Ils revenaient dans leur pays d'origine ou peut-être dans un autre. Mais par contre, c'était ultra condamné, hein, dans, parce que voilà, c'était des traites, des faibles, des rebuts, des mauviettes. On se rappelle de, alors c'est pas mes mots, c'est les mots du premier ministre Yitzhak Rabin, qui qualifiait ces yoredim, ces gens qui sont faibles, qui repartaient d'Israël. Ils sont très racistes, même entre eux, hein, quand même, faut quand même le dire. Et ben aujourd'hui, ça a un petit peu changé. C'est un sondage qui avait été révélé par RFI, qui était publié par une, qui avait été publié par une télévision israélienne, la deuxième chaîne de télévision israélienne, qui interrogeait les Israéliens après cette campagne, cette guerre sur la bande de Gaza, et qui leur demandait si ils envisageaient, s'ils pensaient quitter Israël. Et là, il y en a quand même un sur trois qui se posait la question. Donc ça veut dire que c'est rentré dans les esprits et que c'est plus vu comme une traîtrise de partir pour aller ailleurs. Donc voilà, c'est, je pense que une progression pour la conscience générale des Israéliens d'accepter que, ben, à un moment, on puisse partir d'Israël pour aller ailleurs, quelle que soit la raison d'ailleurs, hein, parce que la haine qu'il y avait contre ces fameux yoredim qui partaient, même s'ils avaient une bonne raison, c'était de la haine quand même, parce qu'on a toujours une bonne raison quand on part, c'est pas forcément pour le plaisir. Donc voilà, c'est une progression. Il n'y a pas de choses toujours très positives, hein, sur Israël et sa population. On l'a vu cet été, notamment avec le soutien massif à l'extrême droite et à la droite israélienne. Bah là, si, moi je trouve que c'est un progrès d'accepter cette idée-là. En lien ou pas, on ne sait jamais si c'est en lien ou pas, mais je vais le mettre avec, même si ça concerne la France. Dimanche dernier, il y a eu des agressions à Saint-Mandé, donc une banlieue chic, hein, proche de Paris. C'est pas la première fois qu'il y a des affrontements là-bas, mais là, pour reprendre les faits, c'est dimanche vers 18h, deux jeunes de 17 ans d'origine algérienne qui livraient du pain, parce que leurs parents sont boulangers, ils fabriquent du pain, qui sont livrés dans des restaurants de cette banlieue de riche, et ils sont fait prendre à partie et agresser d'abord par une dizaine de jeunes, donc alors sans, c'est pas une question de racisme au départ, enfin au départ si, mais donc ils se sont fait agresser parce qu'ils étaient arabes, on va le dire en gros, parce qu'ils savaient pas qu'ils étaient algériens, les autres, ils étaient arabes, point, par des membres de la communauté juive. Alors sur le coup, personne savait que c'était des membres de la communauté juive, sauf que suite à cette agression, ils partent et peu de temps après, a priori, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui ont commencé à les agresser ont appelé des amis à eux. Et là, ils se sont fait tomber dessus par une trentaine de jeunes. Quelqu'un est intervenu en plus pour les aider, eux. Et du coup, trois personnes se sont fait rouer de coups, tabasser. Ils ont déposé plainte. Il y en a un qui a eu 12 jours d'interruption de travail. Enfin, voilà. Et bon, les premiers articles disaient que c'était peut-être pour des raisons de racisme, parce que on les avait traités de sales arabes et qu'a priori c'était des membres de la communauté juive, comme ils disent dans l'article du Parisien. Sauf que depuis, la Ligue de défense juive a revendiqué l'agression. Elle s'est félicitée de l'agression. La Ligue de défense juive, vous savez, ce groupe d'extrême droite juif, comme son nom l'indique. Donc voilà, du coup, on sait que c'est vraiment une agression de la Ligue de défense juive, qui est toujours autorisée en France, bien évidemment. Ce qu'on notera dans les choses positives, c'est que le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui en général est plutôt sympa avec la Ligue de défense juive, depuis quelque temps a changé un petit peu son cheval d'épaule et a dénoncé l'agression et a condamné l'agression. Elle trouvait que c'était une agression raciste, quel que soit le sens de l'agression, et c'est voilà, c'est pareil. Pour une fois que le CRIF fait une condamnation d'une violence dans le bon sens, et ben voilà, nous le signalons. C'est triste de voir ces agressions communautaristes, du coup, pour des raisons de pur racisme, bien évidemment. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce qui concerne tout ça. Nous allons passer à la Chine.
Oui, alors je vous rappelle que la Chine a libéré pacifiquement le Tibet. C'est bien connu.
Ah bon ?
Ah bah si,
merde.
Si, c'est bien connu. Alors, il y a Dalai Lama, 79 ans. Il a été désigné à l'âge de 3 ans, 14e Dalai Lama. Il a eu prix Nobel de la paix 1989. Et Tenzin Gyatso est considéré comme un dangereux séparatiste par la Chine. Alors, en juin, il a apporté son soutien à une nouvelle campagne au gouvernement tibétain en exil pour obtenir une autonomie élargie du Tibet au sein de la Chine. Alors, ça fait plusieurs années que les négociations sont au point mort, malgré les appels, entre autres, des États-Unis d'Amérique et de M. Obama ces derniers mois. Je vous rappelle que le Dalai Lama, il a annoncé en 2011 qu'il abandonnait son rôle politique de chef du mouvement des Tibétains en exil. Il estimait qu'il était de toute manière en retrait depuis le début des années 2000, en 2001, date à laquelle il y a eu un premier ministre en exil qui a été élu pour la première fois. Mais malgré tout, il reste actif, hein. Il a beau avoir 79 ans, il reste une personne qui continue à voyager et à prêcher et à porter la parole des Tibétains. Alors cet actuel Dalai Lama a donné un entretien mardi à un journal allemand qui s'appelle le Die Welt Rundschau. Tontag, excusez-moi, je n'ai jamais fait allemand à l'école, ni par la suite. Et dans ce journal allemand, il explique, lorsqu'on lui demande comment il voit la situation du prochain Dalai Lama, et est-ce que ça doit encore exister, que c'est une institution qui a près de 5 siècles, que c'est une tradition, que finalement ce 14e Dalai Lama, il parle de lui-même, est aimé, et que s'il devait y avoir un 15e Dalai Lama et qui faisait honte à la fonction, l'institution serait ridiculisée. Il explique que ces derniers temps, il y a eu le Dalai Lama, c'était finalement une institution, un symbole important pour son pouvoir politique, pour sa représentation politique, et que ben peut-être qu'il faut passer à autre chose. Et donc dans ce journal, il explique dans cet entretien qu'il pourrait ne pas désigner le prochain Dalai Lama. Alors, c'est une manière de contrer la politique du gouvernement chinois sur le bouddhisme et sur la fonction du Dalai Lama. Peut-être qu'on peut remettre un petit peu dans le contexte. En 1995, la Chine a désigné son propre Dalai Lama. C'était un fils du membre du Parti communiste. Donc, il a été nommé 11e Panchen Lama. En fait, c'est pas Dalai Lama, c'est le deuxième titre le plus haut dans le bouddhisme. Alors que quelques temps auparavant, le Dalai Lama avait nommé un Panchen Lama. Il faut savoir qu'il avait nommé un jeune garçon du nord du Tibet. Alors lui et sa famille, ils ont disparu. Hein, il y a des mauvaises langues qui disent que c'est les vilains méchants chinois du gouvernement qui ont enlevé la famille et le gamin, qui les ont fait disparaître pour ne laisser que ce nouveau Panchen Lama comme représentation. Donc là, c'est ce qu'ils veulent continuer à gérer. Donc c'est un peu quand même une réponse du Dalai Lama à la Chine. Alors il faut savoir que en réponse, la Chine a accusé hier le Dalai Lama de chercher à pervertir l'histoire, qu'il aurait des arrière-pensées, qu'il nierait les faits et qu'il est préjudiciable à l'ordre normal de la religion tibétaine. Puisque oui, j'ai appris ces derniers temps que la Chine suit une politique de liberté de croyance et de culte dans lequel s'inscrit le respect et la protection de la transmission du bouddhisme. C'est ce qu'ils expliquent dans le communiqué de réponse. Ils expliquent aussi que c'est certainement pas au Dalai Lama de choisir s'il y aura ou pas un successeur. Ils expliquent, et plutôt c'est la porte-parole, elle explique, de la diplomatie chinoise, que le titre du plus haut chef spirituel tibétain est conféré par le gouvernement central, comptant une riche et longue histoire. Alors évidemment, voilà la mainmise de plus sur la Chine, sur le Tibet. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en même temps, ce Dalai Lama, dans cette même interview, il parle plutôt en termes élogieux du président chinois. Il estime qu'il ouvre une nouvelle ère, plus harmonieuse, qu'il se bat avec détermination contre la corruption, qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis parmi les vieux cadres du parti, et ce Dalai Lama pense qu'il aura la possibilité de rentrer chez lui un jour. Ça semble quand même compliqué, parce qu'à côté de ça, la Chine semble se féliciter de toutes les actions qui sont menées contre les déplacements de ce Dalai Lama. Là, en Afrique du Sud, continue une grosse polémique. Le Dalai Lama a décidé d'annuler un voyage en Afrique du Sud qui était prévu en octobre. Il devait se rendre au 14e sommet des prix Nobel de la paix, qui doit donc se tenir au Cap. Mais les autorités sud-africaines ont encore une fois refusé de lui délivrer un visa. Alors, vous l'aurez bien compris, ça risque de perturber les bonnes relations, le bon partenariat entre la Chine et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a un partenaire économique de la Chine. Donc il faudrait surtout pas vexer l'ami chinois, comme dans bien d'autres endroits ça se passe. Et pour couronner toute cette affaire, le gouvernement chinois a salué vendredi dernier la justesse de la position de l'Afrique du Sud et le soutien offert par le gouvernement sud-africain sur les questions qui touchent à sa souveraineté et à son intégrité territoriale. Voilà qui a au moins le mérite d'être clair. Merci de ne pas accueillir le Dalai Lama. Alors, il y a une grosse polémique en Afrique du Sud, il y a l'opposition qui demande des explications, c'est pas la première fois qu'il est refusé d'entrer en Afrique du Sud. Il y avait une grosse polémique, souvenez-vous, en 2011, le Dalai Lama devait se rendre aux célébrations du 80e anniversaire de Desmond Tutu. Il y avait fallu une médiatisation, une colère de l'archevêque sud-africain, beaucoup de réactions internationales pour que finalement il puisse peut-être, il y a un moment on avait dit, allez, finalement il y va pas, donc voilà, il avait fallu quand même se fâcher. Bon, là, on ne sait pas bien ce qui va se passer, puisqu'il y a des prix Nobel qu'on dit que ils se mettraient en manifestation symbolique. On attend de voir des prix Nobel se mettre en manifestation pour soutenir le Dalai Lama, autre prix Nobel de la paix. Bon, voilà, ça risque de pas aller bien loin, d'autant plus que le ministère a estimé que l'affaire était close, puisque le Dalai Lama avait finalement renoncé à son déplacement. Ça a le mérite d'être simple. Voilà, on ne veut pas de lui, tout simplement. La Chine, elle, en tout cas, elle est contente.
Je ne sais pas si Barack Obama, qui avait été prix Nobel de la paix et qui est un homme qui fait que des guerres partout, va se rendre à ce truc-là, ça serait quand même honteux. On poursuit avec une petite info autour de la lutte contre la drogue. Alors, on en avait déjà parlé une fois, parce que ça avait été, il y avait eu plusieurs articles dans la presse. Il y a une commission, notamment de l'ONU, qui est composée par d'anciens présidents. Il y a l'ancien président du Brésil, un ancien président du Chili, de la Colombie, du Mexique, de la Pologne, de la Suisse. Il y a aussi Kofi Annan, hein, qui est l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Dedans, il y a l'écrivain Mario Vargas Llosa. Il y a Richard Branson, l'homme d'affaires. Il y a plein de gens dans cette commission sur la drogue et sur ce qu'il faut faire pour lutter contre la drogue. Et donc on savait que ça allait être un petit peu révolutionnaire hein, par rapport à ce qui se passe dans les pays occidentaux notamment, puis même dans d'autres. En tout cas, cette commission a révélé hier son rapport qui va servir lors de la réunion de l'ONU consacrée, de l'Assemblée Générale des Nations Unies consacrée à la politique des drogues qui doit se tenir normalement dans un peu plus d'un an. Alors, comme ce qu'avait filtré hein, à l'époque, ils ont une approche totalement différente. Ils disent qu'il faut arrêter la guerre contre les drogues, la guerre aux drogues et surtout la guerre aux drogués, enfin aux consommateurs de drogue, on va dire, ça c'est moins insultant, puisque eux, quand ils font le bilan et qu'ils regardent, ben oui, ça fait des dizaines, voire des centaines d'années qu'on lutte contre la drogue, contre les drogués de manière autoritaire, avec toujours le même type de politique. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? La drogue est partout, et surtout, la mafia, le crime, et tous ces gens-là s'enrichissent grâce à ce genre de politique. Donc eux, ils disent, faut arrêter les lois punitives pour lutter contre la drogue, ça attise la criminalité, et en plus, ils rappellent que ça accroît les risques sanitaires de transmission, notamment de certaines maladies comme le sida, l'hépatite, à plus grande échelle encore que le sida. Donc ils disent stop. Nous, dans ces membres de la commission, nous proposons d'avoir une approche différente, d'arrêter de criminaliser l'usage et la possession de drogue, mais que la drogue soit régulée, que le marché soit régulé par les gouvernements. Donc c'est une légalisation, hein, ce qu'ils disent avec ces mots-là, et de viser donc en priorité une réduction des risques de la consommation de drogue, une réduction du pouvoir des organisations criminelles et donc de la violence qui y est associée et de l'insécurité. Voilà, c'est hyper révolutionnaire quand même d'entendre ce genre de discours. Alors, ça serait des gauchistes, voilà, on dira ouais, c'est encore des gauchistes qui ont une vision un peu bisounours là de la drogue. Sauf que là, ce sont des gens très sérieux, ils sont même, ça se trouve, pas ultra consommateurs de drogue, qui ont cette analyse parce que effectivement, c'est une analyse assez objective de dire que voilà, la lutte contre la drogue ces 60 dernières années, elle a totalement échoué sur le développement de la drogue, elle n'a fait qu'un truc, aider à ce que les criminels soient plus riches, plus forts et plus violents. Donc effectivement, il faudrait peut-être changer de politique. Voilà, c'est une grosse révolution. Malheureusement, la réunion des Nations Unies aura lieu qu'en 2016 sur ce sujet-là, donc il faut attendre un petit peu. On n'est pas sûr que même avec leur beau rapport, avec cette belle réunion, ils arrivent à faire plier les politiques des États, et notamment des États occidentaux et des États-Unis d'Amérique.
On part en Turquie maintenant ? Alors, à peine refermées les portes du Forum pour la bonne gouvernance d'Internet qui s'est tenu à Istanbul, dont on vous a parlé ici, les autorités turques sont déterminées à aller toujours plus loin en matière de censure et de contrôle du net. Alors, la haute instance des télécommunications peut déjà ordonner le blocage préventif de sites Internet en cas d'atteinte à la vie privée ou de contenu jugé discriminatoire ou insultant. Alors il y a une petite couche de plus hein, qui s'ajoute bien évidemment. L'Assemblée nationale turque a adopté cette semaine des amendements qui renforcent encore cette censure d'Internet dans le pays. Alors il y a un premier amendement. Alors la liste des motifs permettant à la haute instance des télécommunications de bloquer un site internet sans décision de justice s'est élargi. L'amendement prévoit que la haute instance puisse bloquer un site en cas d'atteinte à la sécurité nationale pour protéger l'ordre établi ou pour prévenir la commission d'un crime. Autant dire que c'est des termes qui sont quand même assez larges. Hein. Ça va pouvoir permettre de taper bien bien large. Pas besoin d'un bâton. Hein. Prenez un truc bien large, une palette et hop, vous tapez. Alors il y a un autre votre amendement qui permet à la haute instance des télécommunications de collecter l'ensemble des données de connexion des internautes, indépendamment de toute poursuite judiciaire. Alors, les données en question incluent les sites internet visés, le temps passé sur chacun d'entre eux, les destinataires des emails envoyés. Enfin, globalement, on surveille votre vie, hein, tout simplement. Alors, il y avait en février une disposition similaire, hein, qui avait été supprimée à la demande du président de la République d'alors. Alors, si les fournisseurs d'accès étaient tenus de conserver les données de connexion entre 6 et 2 ans, ça, c'est un fait. Jusqu'à présent, la haute instance des télécommunications ne pouvait accéder à ces données que dans le cadre de procédures judiciaires. Alors maintenant, c'est plus simple. Hein. Les autorités turques ont mis en avant un souci d'efficacité. Excusez-moi. Là, c'était trop long. Hein. Les tribunaux, parfois, ils mettaient un mois à obtenir des données qui étaient donc demandées dans des procédures judiciaires. Ça causait des retards. Vous rendez pas compte. Alors que là, maintenant qu'elles vont être stockées directement par la haute instance des télécommunications, vous vous doutez bien, tout va être simplifié. C'est direct. Hein. Ça va direct. Alors, il y a d'autres choses sur lesquelles il faut s'inquiéter, puisque M. Erdogan a fait part de son intention d'abolir cette haute instance des télécommunications. Alors, comme ça, ça pourrait être une bonne nouvelle, mais ça l'est pas, puisque il souhaiterait transférer ses compétences au service des renseignements, qui sont eux-mêmes directement placés sous son autorité. C'est un peu l'idée, vous voyez, du processus. Alors, déjà, hein, depuis le mois d'avril, les services secrets, les services des renseignements instaurent déjà une surveillance généralisée des citoyens et des médias turcs. Et puis, il y a eu aussi une petite ajout depuis, c'est qu'ils sont extrêmement bien protégés, ces services de renseignement, puisque si les journalistes révèlent des informations émanant de ces services de renseignement, ils risquent jusqu'à 9 ans de prison. Donc vous voyez, c'est toute la société qui est en train de se resserrer, puisque si jamais il y a une censure sur Internet, il faudrait pas oublier qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression sur les médias dits traditionnels. Tout ça, ça s'accentue, et pour tout dire, la liberté d'opinion et d'expression en Turquie, ben, elle est vraiment, vraiment en train de se réduire.
Alors, on va parler un petit peu des conspirationnistes et en général des complots qu'ils véhiculent et qui, en général aussi, sont en lien avec l'extrême droite. En tout cas, c'est le cas de l'information du complot du jour que j'ai découvert il n'y a pas bien longtemps. Donc, suite, ça a été, comme d'habitude, hein, sur Internet, ça peut se répandre assez vite. Et c'est Dieudonné qui a, avec sa dernière vidéo, a été le point culminant de cette théorie du complot sur l'assassinat de James Foley. Vous savez, cette décapitation horrible, la première hein, qu'on avait vue, qui était arrivé fin août. Alors, pour reprendre l'historique, la théorie du complot sur l'assassinat de James Foley est arrivée juste après sa mort, 3 jours très exactement. C'est le site d'extrême droite de la mythe Dieudonné, la Soral Égalité et Réconciliation, qui commence à donner des fausses infos en expliquant que en fait l'assassinat paraissait pas juste. Ils ont décortiqué la vidéo, ils disent regardez, Foley et son comparse semblent en bonne santé, bien qu'il, quelques minutes avant de mourir, il a l'air de pas transpirer, il bafouille pas, on dirait qu'il joue la comédie, bref, etc. Et ils commencent à faire courir le bruit, Égalité et Réconciliation, que c'est un faux, une invention, un canular, une supercherie hollywoodienne, pour citer ceci d'extrême droite. Suite à ça, ça rebondit encore. C'est un autre site français qui s'appelle Croix.fr du dessinateur Noël Gérard, alias Joël Corbeau, qui lui relaie une autre rumeur qui est apparue sur les réseaux sociaux et qui dit qu'en fait c'est pas... Alors, parce que vous allez voir, ils se contredisent beaucoup. Lui, il dit si, l'assassinat, il a vraiment eu lieu, mais c'était pas un journaliste, ou peut-être si, mais il était pas si innocent que ça. Grosso modo, il raconte que c'était un journaliste, mais qui travaillait pour les services secrets américains, donc la CIA, etc. D'ailleurs, il va jusqu'à dire que 90% des journalistes de l'Occident, alors ça comprend français, britannique et états-uniens, sont des agents des services secrets ou liés directement aux services secrets. Voilà, les journalistes sont contents d'apprendre que 90% de leurs corporations sont vendues aux services secrets. C'est les théories conspirationnistes, hein, c'est jamais crédible. Quelques jours après, C'est un autre groupe conspirationniste d'extrême droite, le Cercle des Volontaires, qui s'attaque cette fois à la famille de James Foley. Suite aux vidéos aussi d'interview de la famille, ils disent regardez, ils pleurent même pas, ou ils font, on a l'impression qu'ils font semblant de pleurer. Enfin, ils dénigrent toute la famille. Et eux, pour dire simplement qu'en fait non, ça a été, il a été tué un an avant et que c'est pas le même, c'est un faux, c'est un montage, c'est pas le bon qui est sur l'image. Voilà, bref, ça va très très loin. Tout ça pour dire que au bout du compte, ça c'est amplifié, véhiculé par Internet. On a des sites conspirationnistes, on a Al-Manar, hein, la télé du Hezbollah, qui véhicule aussi tout ça. Pas mal de groupes comme ça conspirationnistes qui font tourner cette information et qui atteint finalement sa cible, c'est-à-dire ça sort des milieux conspirationnistes. Dieudonné continue, met sa vidéo en ligne le 27 août, ce qui fait à nouveau le jeu de la propagande conspirationniste. Et quand le 3 septembre un autre américain a lui aussi assassiné, Stephen Sotloff, à nouveau, tac, tous ils se jettent dessus en disant voilà, c'est pas vrai, il était déjà mort, ou il est mort après, ou c'est un faux, parce que voilà, ils sont jamais cohérents entre eux. Un coup ils annoncent là que c'est pas un vrai, un coup qu'il était déjà mort, un coup que si, mais il méritait de mourir parce que c'était un espion. Alors pour Sotloff, ils disent que c'était un espion du Mossad. Oui, parce qu'il avait la double nationalité, il avait la nationalité israélienne. Donc les Israéliens seront contents d'apprendre que tous les Israéliens sont des agents du Mossad. Donc voilà, tout ça pour dire que tous ces conspirationnistes qui remplacent les menaces réelles qui pèsent sur le monde là, par une espèce de truc chimérique du grand complot, ça continue de détourner l'attention des gens qui se font pas attention, qui ont pas l'habitude, et surtout ça exonère les vrais criminels de leurs responsabilités. Ce qu'on notera quand même, c'est que tous ces gens qui disent notamment Dieudonné, Soral et toute la bande qui disent que il a pas été décapité, le premier journaliste James Foley. On rappelle quand même que ceux qui l'ont décapité, les djihadistes de l'État islamique, ont revendiqué. Donc c'est pas comme si on imaginait des choses. Ceux qui l'ont tué ont revendiqué les choses, mais ça suffit pas. Et du coup, la théorie se répand quand même et se propage, et on en trouve un petit peu partout sur Internet. Voilà, c'était la conspire ridicule de cette fin d'été, de ce début de rentrée. Ces deux personnes, ces journalistes, ont bien été assassinés par des dingues, il faut quand même le dire. Et que voilà, ça n'est pas du tout inventé, ça a vraiment eu lieu.
Alors, on va partir en Gambie. Alors, pour ouvrir cette affaire, en mai dernier, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a adopté une résolution qui condamne les attaques systématiques perpétrées par des acteurs étatiques et non étatiques contre des personnes sur la base de leur identité, orientation sexuelle réelle ou supposée. Avec ça, on se dit que en Afrique, ça doit aller mieux pour les homosexuels, les bi, les trans. Alors après l'Ouganda, ben voilà la Gambie dans l'homophobie d'État. L'Assemblée nationale de Gambie a adopté le projet de loi portant modification du code pénal le 25 août dernier. La loi propose tout simplement de persécuter les personnes soupçonnées d'être lesbiennes, gays, bi, transgenres. Ah non mais c'est radical, hein. Donc là, c'est l'Assemblée nationale a adopté ça là donc cette semaine. Alors il faut savoir que c'est déjà un crime, hein, l'homosexualité en Gambie, 14 ans de prison. Mais là, la modification proposée prévoit des peines encore plus lourdes. Alors, le nouvel amendement du code pénal prévoit de punir par l'emprisonnement à perpétuité l'homosexualité avec circonstances aggravantes.
Et c'est quoi les circonstances
aggravantes ? Alors, le truc, c'est que c'est un peu vague. Comme toujours, évidemment, vont être visés ceux et celles qui le sont déjà, hein, parce qu'il y a un climat quand même absolument horrible au jour aujourd'hui en Gambie. Alors ceux et celles qui pourraient être visés des circonstances aggravantes et donc emprisonnés à vie, ça pourrait être les personnes vivant avec le VIH, par exemple,
ouais. Ou ceux qui assument et qui en parlent et qui militent, par exemple.
Alors ça, bon. je veux dire,
je sais pas s'il reste encore des militants.
Ouais, c'est un pays compliqué, la Gambie, je pense, pour avoir un militantisme quel qu'il soit. Je vous rappelle que même s'il y a un président, il est là depuis les années 90, 94 de mémoire, si je veux pas me tromper. Il est arrivé avec un coup d'État. Depuis, il y a eu des élections. Mais enfin, bon, il y a quand même, il a son parti, c'est pas un parti unique, mais enfin, c'est pas loin au niveau quand même de la manière dont tout ça se passe au niveau politique. Donc il y a aussi évidemment les personnes avec le VIH, elles sont déjà stigmatisées en Gambie, donc ça risque d'aggraver les choses. Alors c'est un projet de loi qui doit être signé par le président gambien, qui est connu pour ses nombreuses déclarations publiques homophobe. Alors, par exemple, devant l'Assemblée générale des Nations Unies en 2013, il avait déclaré « Ceux qui font la promotion de l'homosexualité veulent mettre fin à l'existence humaine. Cela devient une épidémie et nous, musulmans et africains, nous nous battrons pour mettre fin à ce comportement. »
Ah, il a mis une petite couche de religion.
Moi, hein. J'ai mieux. En février dernier, « Nous combattrons cette vermine faite de ce qu'on appelle les homosexuels ou les gays. De la même manière que nous combattons les moustiques porteurs de la malaria, si ce n'est même avec plus d'agressivité. »
Oh là là, oui.
J'ai pas fini. En ce qui me concerne, LGBT ne peuvent être que les initiales de lèpre, gonorrhée, bactéries et tuberculose, lesquelles sont toutes nuisibles à l'existence humaine.
C'est énorme quand même.
J'en ai encore une petite dernière pour la route, c'était en mer. Monsieur Jammeh a affirmé à l'agence de presse africaine à propos de ceux et celles qui demanderaient l'asile à cause des discriminations qu'ils et elles subissent du fait de leur homosexualité. Si je les attrape, je vais les tuer. Autant dire que ce projet a quand même de fortes chances de passer, vu l'homophobe à la tête du pays. C'est difficile. Je voudrais juste dire que pour faire contrepoint à ça, on pourrait féliciter le service postal finlandais Itella Posti. Vous pouvez aller chercher sur internet Itella avec deux L. Ils ont sorti toute une série de timbres de l'article Tom of Finland qui s'appelle Tuukko Laaksonen. C'est Tom of Finland, il fait des dessins avec des moustachus et des muscles, donc c'est toute une série de travail sur l'homosexualité qui est donc maintenant sur les cartes postales et sur les enveloppes. Alors évidemment, je vous laisse deviner qu'il y a eu
de la réaction,
de l'opposition et de la polémique, mais ils ont tenu bon et voilà, donc vous pouvez aller voir sur internet pour des moustachus à casquette, c'est Tom of Finland, c'est les termes de Itella Posti. Non mais il faut se souvenir que Tom of Finland, s'il a fait ça, c'était pour répondre à l'habituelle représentation des gays en ce que certains et certaines appellent la tapette. Donc c'était voilà une autre dimension qu'il a voulu montrer dans son travail artistique, et c'est donc ce travail artistique que reprend le service postal finlandais. C'était la bonne nouvelle que je trouvais rigolote.
Alors, la petite rubrique « Ni Dieu ni Maître » avec deux infos cette semaine. La première, c'est le retour du Fils de la Vengeance de Peace Christ. Vous savez, c'est cette installation, ou c'est peut-être un tableau d'ailleurs, du plasticien Andrés Serrano, il y a un crucifix planté dans des excréments. Et qui, ça va pas très très loin, c'est pas très agressif. Mais il est à nouveau exposé en France, et c'est en Corse où ça se passe. Alors, c'est une expo qui est pas que consacrée à cette œuvre-là, mais c'est autour du plasticien Andrés Serrano. Donc, j'ai toutes ses œuvres. Ça paraît logique que quand on fait une expo sur lui, on met cette œuvre-là, le Peace Christ, vu les polémiques qu'il y a pu y avoir dans le monde, surtout les religieux intégristes, et bon, là, du coup, comme c'est essentiellement les chrétiens intégristes, qui sont super agressifs avec l'artiste. Eh ben, en Corse, c'est pareil. Nous avons eu une grosse réaction la mairie tout de suite a précisé, la mairie d'Ajaccio, que l'expo continuerait jusqu'à son terme normalement le 29 septembre. Ça a commencé le 27 juin, mais voilà, il y a eu des manifestations, enfin ils n'étaient pas très nombreux, mais il existe une poignée d'intégristes chrétiens corses, ça nous ne le savions pas, on connaît peut-être pas assez bien la Corse, notamment François Verret-Passini, qui a créé un blog qui s'appelle Peace Christ Fora, ça veut dire dehors le Peace Christ, et lui, il dit c'est pour l'honneur de Jésus-Christ et de la Corse. Il a fait un texte d'introduction de son blog, je vous le lis. Il dit « Le Christ a partagé notre condition humaine. Il est non seulement notre Dieu, mais notre frère. Qui accepterait de voir les photos de son père, de sa mère, de l'un des siens, traités ainsi et exposés au public ?» Que le moment suprême de la rédemption des hommes, le moment où le Christ offre sa vie sur la croix pour sauver les êtres humains, soit associé à des déjections, n'est pas pour surprendre, car une telle haine était déjà annoncée dans l'Évangile, et les profanations au cours de l'histoire n'ont pas manqué. Bon, si, oui, pourquoi pas. Bon, bref, c'est un gars qui est proche des milieux d'extrême droite, hein, il a donné des interviews à Jeune Nation, à F de Souche, à Égalité et Réconciliation, grosso modo, c'est un facho chrétien, et qui trouve que c'est un blasphème. Lui, il croit que Jésus-Christ a existé, rien ne le prouve, on pourrait totalement imaginer que Jésus-Christ est une invention de l'esprit, et comme c'est un personnage, du coup, fictionnel, je vois pas pourquoi l'artiste il aurait pas le droit d'utiliser le personnage fictionnel. Donc voilà, sans souci. Il aurait fait ça avec Danton, hein, qui est un personnage historique qui a existé. Ce petit facho de François Verret Pacini n'aurait rien dit, bizarrement. Donc voilà, on fait bien ce qu'on veut avec ce personnage inventé qu'est Jésus-Christ. Voilà, c'est pour dire que c'est pas gagné, même dans le pays, dans un des pays au monde où les athées sont le moins minoritaires, hein, 1,8% dans le monde des gens sont athées, et il y en a un petit peu plus en France, bon, et j'espère aussi en Corse. Alors, deuxième info autour de notre rubrique Ni Dieu Ni Maître, on va rester chez les chrétiens, cette semaine je suis des infos sur les chrétiens, puisque c'est un militaire américain qui est dans la cagade, hein, pour reprendre une expression du sud de la France. Très exactement, il voudrait prêter serment pour l'armée de l'air américaine. Il a tout fait, il lui reste que la prestation de serment pour entrer dans l'armée de l'air américaine, sauf que dans l'armée de l'air américaine, il est obligé de prononcer la phrase « So help me God », ça veut dire que Dieu me protège, grosso modo. Et le problème, c'est que lui, en tant qu'athée, il dit, ben non, je peux pas dire ça, je vais pas prêter serment devant un dieu, puisque Dieu n'existe pas pour lui. Alors jusqu'à maintenant, il y avait une alternative, il y avait une autre phrase pour prêter serment sans parler de Dieu, mais comme les États-Unis, comme beaucoup de pays, se radicalisent au niveau religion et continuent la lutte acharnée contre l'athéisme, l'armée de l'air a supprimé cette pratique en octobre 2013. Donc du coup, aujourd'hui, quand on est militaire, on est obligé de jurer devant Dieu pour pouvoir rentrer dans l'armée de l'air. Dans les autres armées, c'est pas le cas, hein. Voilà. Et voilà, il est coincé. Alors, il a un avocat. Ils vont essayer de déposer plainte et d'aller devant la justice en disant que c'est discriminatoire et que ça respecte pas la Constitution américaine. Mais on rappelle quand même qu'aux États-Unis, sur les billets, il y a In God We Trust. Hein. C'est la devise officielle de l'État américain. Donc, en Dieu, nous avons confiance. Ça veut dire ça. Nous avons confiance en Dieu. Voilà, et qu'on rappelle quand même l'hypocrisie du système américain, parce que il y a eu aux États-Unis, c'est officieux, mais des présidents qui n'étaient pas croyants, mais qui, jusqu'au bout, tout le long de leur carrière, ont fait semblant d'être chrétiens d'ailleurs et d'être croyants, et de jurer avec leur In God We Trust ou sur la Bible, puisque c'est comme ça qu'il faut faire quand on veut être notamment président. Voilà, c'est un système hyper hypocrite, car contrairement à ce qu'on croit, il y a quand même quelques centaines de milliers d'athées aux États-Unis, même s'ils sont pas très nombreux, un peu moins que chez nous, mais que c'est dur aussi pour eux là-bas. Voilà, c'est pas gagné. On parle souvent de l'absence de liberté de religion dans certains pays, mais en fait le pire, c'est l'absence de droit à ne pas croire, et ça c'est quand même une des choses les plus difficiles, et la plus grosse haine des religions, c'est envers les athées et pas envers d'ailleurs les autres croyants d'autres religions souvent. Rappelons-nous des mots, hein, chien d'infidèle pour les musulmans, c'est ça le mécréant pour les chrétiens qu'on a subi et qu'on subit encore de par chez nous, des choses comme ça. Voilà, la haine est beaucoup plus du côté des religions que du côté des athées, alors que les athées ont fait des actions quand même symboliquement très violentes contre les religions, notamment durant la Révolution, mais ça n'a pas suffi à calmer les religieux de tous bords.
Alors maintenant, on va parler de patrimoine et de pépettes. Alors c'est l'affaire de la semaine qui fait du bruit dans le monde de l'édition et des archives. La BNF, hein, la Bibliothèque Nationale de France, qui a la mission de conserver le patrimoine, s'est lancée dans la vente de livres avec la bénédiction des pouvoirs publics. Alors, BNF Collection e-book, une plateforme, propose d'acheter des livres numériques. Alors, certains sont gratuits, pour l'instant il n'y en a pratiquement pas. Les autres sont payants à partir de 99 centimes. Pour l'instant, il y a une cinquantaine d'e-books proposé sur cette plateforme, mais d'après le communiqué de presse, il devrait y en avoir plus de 4000 qui seront et qui sont pour certains déjà tous commercialisés dans les magasins en ligne traditionnels, comme nous l'explique le site de la BNF dans sa section BNF Partenariat, qui est une filiale de la BNF, créer, valoriser, diffuser des produits et des services culturels élaborés à partir des collections de la Bibliothèque nationale de France avec les acteurs de l'économie numérique dans le cadre de partenariats ou d'accords de licence. Retrouvez les livres de BNF Collection e-book sur Amazon, Fnac, Immatériel, Chapitre.
Quelle horreur.
De bons partenariats, de bons accords. Alors, il faut savoir qu'un certain nombre d'ouvrages, pour la plupart de ces ouvrages, étaient disponibles sur le site, la bibliothèque numérique de Gallica.
Oui, parce que c'est des livres qui ont plus de droits d'auteur.
C'est ça. Donc, j'aurais pu vous le dire dès le début, voilà. Si vous aviez
pas
suivi.
On avait compris, parce que sinon ils n'auraient pas le droit. Et au lieu de les donner gratuitement, ils ont décidé de faire du business.
Oui, alors ils se sont mis en partenariat avec ProQuest pour numériser ces ouvrages qui sont donc sortis du droit. Donc ils vont les vendre. Ce qui, voilà. Alors le truc pour se défendre, c'est que ils expliquent. Alors déjà sur le partenariat, c'est que bon, il faudrait rappeler qu'il y a des réductions des finances publiques et que donc pour aider le citoyen et alléger ses impôts, il faut mieux avoir un partenariat public-privé que de tout faire financer par le public. C'est tellement plus simple.
Sauf que
c'est un peu ça l'idée.
Voilà, la Cour des comptes a démontré il n'y a pas longtemps que chaque fois qu'il y a un partenariat public-privé, ça coûte plus cher que quand c'est une entreprise, enfin un service public qui le fait.
Et puis l'autre argument, c'est qu'ils vont faire un travail de haute qualité technique. Ils visent la haute qualité éditoriale pour une expérience de lecture optimisée, je les cite, ce n'est pas de moi. Donc c'est l'idée que c'est que la qualité, c'est un prix. C'est un peu ça quand même aussi qu'on est en train de nous expliquer.
C'est dommage parce que les collections de la BNF, ça doit être énorme. Ils ont des manuscrits originaux, ouais. Ils pourraient ils ont déjà tout numérisé. Et ils pourraient, ou quasiment, ils pourraient mettre ça à disposition gratuit puisque ça fait partie du patrimoine de la France. On sait pas bien parce que c'était à l'époque, il y avait pas toujours la France. C'était un peu plus compliqué. Ça remonte loin les livres. Mais voilà, c'est un patrimoine culturel important pour la région, pour le pays, et puis pour l'Europe, pour le monde, pour la Terre. Et pourquoi ils ne le mettent pas gratuitement, juste pour payer des frais, soi-disant ? Enfin, voilà, c'est quand même un truc de fou, quoi.
Ouais, alors c'est même pas pour payer des frais, c'est qu'ils estiment qu'ils ont une nouvelle activité. C'est un petit peu, c'est plutôt simple, ouais. Tout simplement. Alors bon, c'est de l'argent public qui sert à financer la BNF, qui elle-même, du coup, va pouvoir se faire des nouvelles entrées d'argent. Alors il y a plein de questions en ce moment dans le monde de l'édition, qui se demandent si c'est au gestionnaire du patrimoine de vendre le domaine public. Déjà, ouais. Première question. Et puis tout simplement, comment on peut déposséder le public de son patrimoine,
oui.
C'est-à-dire nous, vous. Toi, Laurent, moi, comment on peut nous déposséder tout simplement de tout ça ? Alors, bon.
Même s'ils les vendent pas cher, il y a des gens qui n'ont pas les moyens non plus d'avoir une liseuse déjà, et même s'ils l'ont, d'acheter même les livres à quelques euros. Enfin,
oui, parce qu'une des craintes que tu es en train de souligner, c'est que qu'est-ce que va devenir Gallica ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont déjà gagné à la BNF avec le site de Gallica ? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se bloquent. Enfin bon, il y a déjà Gallica, il est déjà en évolution, il y a un mouvement au niveau de sa bibliothèque numérique. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour Gallica ? Quel accès gratuit nous allons pouvoir nous tous et nous toutes continuer à avoir. L'autre question aussi qui arrive, c'est quel est le travail des autres éditeurs ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez quand même des éditeurs qui travaillent sur des manuscrits anciens, qui font un travail d'édition. C'est pas juste sortir des livres politiques faciles, le travail d'éditeur, c'est aussi d'aller chercher des choses. Pour les nouveaux, c'est aller chercher des auteurs. Pour les anciens, c'est aller chercher des vieux trucs. Si le BNF, elle se met là-dessus, c'est évidemment un marché qu'elle prend, et puis elle a un monopole énorme vu le fonds qu'elle possède.
Moi je trouve que ça part d'une bonne idée puisque il y a plein de livres qui sont plus édités parce que c'est pas rentable pour les éditeurs. Les éditeurs, c'est une grosse machine commerciale capitaliste. Quand on sort un livre et qu'on en vend quelques centaines, ça vaut pas le coup. Donc il y a plein de livres qui sont plus du tout édités. S'il y a plus de droits d'auteur, on devrait justement pouvoir les avoir gratuitement à disposition. Ça serait quand même l'idéal pour le lecteur et pour la culture en général.
Alors, le fond du débat, quand même, qui apparaît sur tout ça, c'est que c'est un cas typique de copy fraud. Copy fraud, je vous rappelle que c'est, selon la définition de Jason Mason, qu'il avait proposé en 2006, c'est une fausse déclaration de possession de droits d'auteur faite dans le but d'acquérir le contrôle d'une œuvre. Pourquoi, ici, on parle de copy fraud? Tout simplement parce qu'on a des œuvres qui sont tombées dans le domaine public et que le fait de les numériser, ça remet des droits dessus. Mmh. Alors, il y a eu une bataille en France, hein, et c'est Madame Filippetti, ministre de la culture en 2013, qui a finalement légitimé ce copy fraud en estimant que oui, il était possible pour la BNF d'imposer des droits sur les œuvres numérisées, même si il n'y a plus aucun droit d'auteur qui s'exerce sur ces œuvres. C'est ça le copy fraud, hein, c'est tout simple.
C'est du vol.
C'est du vol, exactement. Donc là, on a donc l'État qui permet donc ce vol, ce patrimoine collectif. La BNF, franchement, on pourrait en écrire des volumes, on pourrait faire des canuts info toutes les semaines, rien que sur leur activité, leur action, c'est quand même toujours sympa. Vous pouvez donc aller un petit peu vous balader sur leur site internet. Et puis je continue avec le PDG d'Air France qui nous a fait des belles déclarations dans un entretien aux Échos de cette semaine, dans un article qui s'appelle « Air France KLM compte investir 1 milliard d'euros dans Transavia ». Alexandre de Juniac justifie sa position. Il est génial, ce PDG d'Air France. Je suis devenu vraiment, vraiment très, très fan. Il nous explique dans la première partie, c'est gagnant-gagnant. Et je m'étonne que nous n'ayons pas déjà trouvé un accord. Il parle de la grève donc en cours, qui va avoir lieu, excusez-moi, entre le 15 et le 22 septembre, au niveau donc des pilotes d'Air France. Donc il comprend pas. Qui n'a pas eu d'accord. Je veux bien comprendre les préavis de grève concernant les projets de restructuration ou de réduction de l'activité. J'ai plus de mal à comprendre qu'on fasse grève lorsqu'il s'agit de croissance et d'emploi en plus. Alors il est gentil, sauf que les syndicats, ce qu'ils estiment, c'est que Transavia, ils sont pas sûrs que pour eux ça soit vraiment de la croissance et de l'emploi.
Ça va être des emplois, mais pourris en plus.
Oui, puisque l'idée, ça va être de pouvoir profiter du droit européen, donc de pouvoir embaucher selon les pays les pilotes. Je vous rappelle que, on vous en a parlé, les pilotes d'Air France, les syndicats demandent à ce qu'il y ait un contrat unique pour les pilotes d'Air France qui ne soient pas distingués au niveau de leur contrat parce qu'ils sont à Air France même, à Transavia ou dans une autre filiale. Transavia, c'est du low cost, hein, si ça aussi vous l'aviez oublié. Alors, il continue un petit peu hein, dans cet entretien aux Échos et il nous explique donc sur le low cost. Si on pouvait faire du low cost avec les règles de fonctionnement d'une compagnie traditionnelle, cela se saurait. Comme on dit, on est low cost, on ne le devient pas. Air France a accumulé au fil des années des avantages qui font que ses coûts et ses conditions d'exploitation sont bien supérieurs à ceux de Transavia. Il n'est donc pas possible d'aller travailler chez Transavia aux conditions d'Air France, sauf à tuer Transavia.
En même temps, il a raison là-dessus. Économiquement, c'est pas rentable. Le problème, c'est que il faudrait que le public ne prenne pas l'avion dans les compagnies low cost, puisque tout le monde sait que les gens sont mal payés, que etc. etc.
Non, c'est qu'ils sont mal payés, qu'ils font beaucoup d'heures, que dans certaines compagnies, peut-être pas Transavia, mais en tout cas dans d'autres, il a été démontré que les pilotes font beaucoup trop d'heures, qu'ils sont exploités, qu'ils ont des situations même de gestion de leur carrière qui les amènent à dépenser de la thune pour pouvoir même parfois faire des vols, faire leurs heures. Enfin, il y a beaucoup de chômage au niveau des pilotes depuis quelques années. C'est pas facile de gagner correctement sa vie maintenant. Et puis, alors, il termine par « Il est difficile de dire aujourd'hui ce que serait l'impact d'une grève. Mais cela pourrait nous coûter plusieurs dizaines de millions d'euros. Et cela reviendrait à sacrifier les efforts consentis par les 60 000 salariés d'Air France au moment où la compagnie peut en récolter les premiers fruits. » C'est donc
chantage.
La faute. C'est ça, du chantage au vilain pilote qui, de toute façon, étant la catégorie supérieure haute des salaires Air France, devrait fermer leur bouche. Sauf que on pourrait malgré tout estimer qu'ils ont peut-être raison de s'inquiéter un petit peu de ce qui va se passer, même si on le dit toujours dans l'air, c'est très corporatiste, ouais. Malheureusement, et qu'on aimerait bien que des fois les travailleurs et travailleuses soient un peu plus unis face au patron. Mais enfin, voilà un patron qui au moins est très très clair sur sa manière de mener son entreprise. C'est vrai qu'il faut aller lire un peu cette presse Écho parce que on n'est pas comme sur TF1 ou sur France Info, c'est-à-dire que le langage, eh ben, il est libéré, vous voyez, chez ce patronat bien pensant, et donc on apprend plein de super idées, et donc on a appris que le low cost, c'était pas comme une compagnie normale.
Et du coup, il y a un préavis de grève pour la semaine prochaine.
Pour la semaine prochaine, et d'après ce qui est annoncé, ça risque d'être l'une des plus grosses grèves depuis 2007.
Ça lui fera les pieds.
Voilà.
On poursuit avec quelques petites infos environnementales pour terminer ce Canu Info. La première bonne nouvelle, c'est que le réseau du nucléaire nous a annoncé qu'effectivement, le tribunal de la police de Dieppe a condamné mercredi, donc c'est-à-dire hier, le 10 septembre, EDF a versé 10 000 euros. Donc c'est deux amendes de 3 750 euros, entre autres, pour chacune concernant la fuite de tritium survenue à la centrale de Penly en Seine-Maritime en octobre 2012 dans la nappe phréatique. Grosso modo, il y a eu une fuite. Bon, ils ont mis du temps à le déclarer à l'autorité de sûreté nucléaire. Et puis, ils ont toujours minimisé les trucs. Grosso modo, au lieu d'avoir quelques becquerels par mètre cube de tritium, il y en avait 60 000. Donc voilà, quand on sait que la moindre dose de radioactivité a un potentiel quand même dangereux, notamment au niveau de l'ADN de nos cellules qui mute à tour de bras devant la radioactivité et après ça entraîne des risques de cancer. Voilà, c'était pas anodin non plus de faire condamner. Donc il y avait le réseau santé nucléaire et le collectif Stop EPR, ni à Penly ni ailleurs, qui étaient à l'origine de la plainte, mais ils étaient aussi soutenus par France Nature Environnement et Haute-Normandie Nature Environnement. Et ça ouvre la porte à d'autres, parce qu'il y a eu d'autres endroits où EDF rejette de la radioactivité, en plus de ce qui lui est autorisé, hein, parce qu'ils ont déjà des autorisations régulières. Et puis, il s'est passé un truc à Nancy, alors j'ai trouvé une info dans un journal où c'était écrit un déferlement de violence dans les rues de Nancy. Et là, il y avait, ils expliquaient qu'il y avait des gros individus cagoulés, 60 à peu près, qui sont venus tout casser. Ultra violents, il y a une interview de commerçants, ils ont eu peur et tout. Bon, on va revenir sur les faits. Donc c'est des membres, a priori, puisqu'ils se sont revendiqués comme ça, du collectif Stop Bure. Bure, c'est l'escroquerie, là. C'est soi-disant un laboratoire d'essai d'entreposage de déchets radioactifs, mais qui va devenir pas un laboratoire, mais un site d'entreposage de déchets radioactifs. Et donc, c'est des militants qui luttent contre ça. Ils ont débarqué samedi dernier dans le centre-ville de Nancy. Alors, vous imaginez, centre-ville de Nancy, des voitures partout, des piétons partout, un centre-ville un samedi après-midi où les gens consomment comme des moutons, là. Et donc, effectivement, ils sont arrivés 60 cagoulés avec des bombes, mais des bombes de peinture. La seule violence qu'ils ont faite, en fait, ces gens-là, c'est qu'ils ont tout tagué partout, des noms à EDF, des noms, des messages anti-nucléaires, notamment l'agence EDF, ils l'ont repeinte entièrement à la bombe noire. Enfin, c'est assez beau à voir. Il y a des images encore qui traînent sur Internet. Donc voilà, c'est une action avec une violence très très limitée. Ils ont peut-être fait peur aux gens par leur look, par leur attitude, mais grosso modo, ils ont agressé personne, ils ont juste tagué des messages et pour rappeler que le nucléaire c'était dangereux, qu'ils étaient en train de leur construire un truc pourri pas loin. Voilà, c'est pour rappeler ça, que la lutte continue, la lutte anti-nucléaire. C'est, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ces actions-là, mais l'action n'était pas si violente que ça et elle a pas agressé les gens. Et il faut que les gens apprennent aussi à pas voir de la violence partout et à pas se sentir agressé dès que quelqu'un arrive cagoulé avec une bombe de peinture à la main. Bon, voilà. On a, grosso modo, ils devraient plus avoir peur des flics qui sont pas cagoulés, mais qui ont un flingue, qui peuvent leur tirer dessus. Alors que tuer quelqu'un avec une bombe de peinture, c'est quand même ultra difficile.
Bah, disons qu'il faut taper fort, je pense.
Ou alors lui faire manger, mais c'est compliqué, quoi. Voilà, et un dernier mot avant de passer à l'agenda qui sera très court. Une petite nouvelle, si vous pensiez que le capitalisme et le commerce mondial étaient bons pour l'environnement et pour les forêts, eh ben vous êtes trompé. Puisque il y a une grosse méga étude sur l'impact sur d'où vient en fait la déforestation mondiale. Et on apprend, mais ça on le savait déjà, mais c'est juste une confirmation que c'est bien le capitalisme et le commerce mondial qui est associé, qui est responsable de la déforestation dans les pays tropicaux. Alors l'étude, elle est complète, elle est détaillée. Elle explique, par exemple, que 90% de la déforestation survenue au Brésil entre 2000 et 2012 était illégale et a servi à 25%, à 50% en exportation. Donc, c'est pas pour que les gens mangent, c'est pas parce qu'ils ont des problèmes pour manger, c'est parce qu'ils exportent de l'huile de palme, du soja, pour les multinationales de l'agroalimentaire, pour les paysans productivistes qui nourrissent leurs animaux au soja, etc. Donc, voilà, je vais résumer très très vite parce qu'il nous reste plus que deux minutes, mais toute l'étude démontre que c'est vraiment le capitalisme et le commerce mondial qui est responsable de ça. Et c'est pas du tout comme c'est présenté souvent pour dire que les gens ils ont besoin de couper la forêt pour planter des champs et pour se nourrir. Pas du tout. Hein. Par exemple, en Bolivie, le soja qui est planté, 75% de ce soja est exporté. Exporté pour les pays occidentaux qui surconsomment. Donc voilà, c'est le principal d'ailleurs facteur de déforestation, la culture du soja notamment, en Bolivie et dans une grande partie de l'Amazone, de la région amazonienne. Donc voilà, bon, vous le saviez déjà, c'était juste pour repréciser. Il nous reste 1 minute 50 très exactement à la pendule de la plus rebelle des radios. C'est la fin de ce Canu Info. Rendez-vous la semaine prochaine, 19h-20h pour le prochain Canu Info, ou demain s'il y a un Canu Info du vendredi. Et pour terminer, un petit agenda très très court. Samedi, il fait beau. Si vous êtes pas loin des pentes de la Croix-Rousse et que vous voulez aller sur les pentes de la Croix-Rousse, il y a un repas de quartier de Tiers-Mont-la-Pente. C'est les 10 ans de l'association, enfin du collectif Tiers-Mont-la-Pente. Repas de quartier Place Colbert. Donc on amène à boire, à manger et on partage. On peut amener des boules, des jeux de cartes et en plus on passe l'après-midi au soleil puisqu'il fera beau. Nous faisons la rubrique météo que Place Colbert. Il fera beau hein, par contre. Donc c'est ce samedi. Ça commence à 11h30 et ça se termine à 16h. Et en plus, il y a une zone de gratuité. Donc si vous avez essentiellement des vêtements en bon état...
C'est que des vêtements, il me le semble, ouais, ça a été précisé sur les affiches, puisqu'il n'y a pas la benne, et que donc les choses sont plus compliquées à gérer.
La benne est place Rambaud, dans le premier arrondissement. Donc si vous avez des vêtements qui sont encore en bon état, mais que vous ne mettez plus, amenez-les, ça fera toujours, ça servira.
Et
si vous voulez venir récupérer aussi, à savoir que quand il reste des vêtements, on les amène aux gens qui sont... comme les Roms Place Lyautey, hein, puisque on a vu le maire du 6e être pas content qu'il y ait un camp de Roms sur sa jolie place. Voilà, des gens qui ont besoin qu'on leur donne des vêtements.
Ouais, après, on répartit comme ça. Ce qu'elles peuvent récupérer. Voilà, l'idée, c'est de surtout pas jeter, mais de continuer à ce que ça circule et que tout un chacun, avec ou sans sous, puisse s'habiller tranquillement.
Voilà, repas de gratuité, zone de gratuité et repas de quartier. Tiers-Mont-la-Pente, samedi, 11h30, 16h. Il y aura, je crois, que même des pizzas avec un four sur place. Tout de suite et nulle part ailleurs, l'émission La Petite Cuillère. Ah, elle me donne le CD. Alors, c'est pas pratique quand je suis en train de parler. Donc, Delphine va dire qu'on a besoin d'argent.
Ouais, alors je vous rappelle qu'on a besoin d'argent, ça c'est dit. On vous rappelle que notre idée, c'est d'avoir un endroit à nous pour qu'on puisse toujours vous raconter des trucs dans le micro. Voilà, oui, c'est un appel à dons. On continue, on a vraiment, vraiment, vraiment...